Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Je vous propose que nous relisions ensemble un extrait du chapitre 17 qui nous sert d'air d'envol, de base de lancement. 1 Samuel 17, nous lisons les versets 45 à 47. Verset 45 à 47, toujours dans le cadre de l'histoire de la confrontation du géant Goliath avec ce jeune berger de Bethléem, notre ami David, le bien-aimé de l'Éternel. Et je lis au verset 45, David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Dans le Nouveau Testament et dans l'Évangile selon Jean, à la fin de cet Évangile, c'est-à-dire au chapitre 20, et à partir du verset 24, quelques mots concernant l'apparition de Jésus, du ressuscité, à ses disciples et sa confrontation avec Thomas le Normand. Peut-être ben qui, peut-être ben que non, c'était là la position de Thomas. Il y avait deux hommes en lui, un qui disait non, un qui disait oui. C'était bien Normand alors. Ah, bien. Je lis au verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, il se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté. Sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous avons donc commencé hier soir à aborder la question des fondements de la foi. Et après quelques remarques préliminaires, toutes concrètes, désireuses de nous placer sur le grill, de nous poser des questions en ce qui concerne nos attitudes, Nous avons essentiellement utilisé le corps de notre réflexion hier soir à souligner que notre foi doit être fondée sur Dieu lui-même. Nous avons évoqué la foi naturelle, puisque même cette foi-là est un don de Dieu. Et ensuite, nous avons évoqué la foi spirituelle. Et nous avons vu comment Dieu manifeste sa propre foi, sa fidélité, tout au travers de l'histoire, au fil des siècles, déjà dans l'Ancienne Alliance, dans l'histoire du peuple d'Israël, puis à cette époque extraordinaire où le Christ a été au milieu de son peuple. Comment, là aussi, le Christ a manifesté sa foi, c'est-à-dire sa fidélité, ses actes de puissance, s'est prouvé, n'est-ce pas, au regard de tout un peuple, pour que naisse et se développe dans le cœur de certains au sein de ce peuple d'Israël cette foi, c'est-à-dire cet engagement de l'amour, qui dit oui à celui qui a fait la cour, qui se donne, qui passe par une sorte de mariage spirituel, et qui va se traduire ensuite dans une fidélité pour l'éternité au premier engagement, à ce oui, non pas devant Monsieur le maire, mais devant tout le monde invisible, et y compris aussi devant l'Église de Jésus-Christ. Nous voulons aller un peu plus loin ce soir, tout simplement parce que ce que nous avons dit hier soir était incomplet. Et parce qu'il est facile d'avoir une foi fondée sur Dieu et pourtant déséquilibrée. Tout simplement parce que cela dépend de l'idée qu'on a de Dieu. Et vous vous souvenez qu'hier soir nous terminions en évoquant le problème de ceux qui, par exemple, ont eu un papa très très dur, très sévère, et qui, à cause de cela, le jour où ils ont découvert Dieu, ont eu des problèmes, parce que l'idée de père, pour eux, avait une connotation négative. Donc ils avaient du mal, n'est-ce pas, à se dégager de cette idée et de cette image de leur propre père. Et il leur fallait beaucoup de temps pour découvrir que notre Dieu est un autre Père. Et nous disions hier soir dans notre conclusion qu'on peut pendant des années traîner une fausse idée de Dieu, liée à notre passé, à notre éducation. Je me souviens, je vous racontais un exemple hier soir, je me souviendrai toujours de cette époque où, début 1970, j'étais hospitalisé en Bretagne, quelques semaines, quelques 15 jours après mon arrivée en Bretagne pour y servir le Seigneur, et j'étais hospitalisé pour y subir une intervention chirurgicale dans une clinique catholique dirigée par une sœur qui avait des dizaines d'années de vie de piété catholique derrière elle, et qui, durant les premiers jours de mon hospitalisation dans son établissement, était assez effarouchée. Elle se demandait ce que c'était que ce pasteur, ce drôle d'animal qui osait aller se faire opérer dans une clinique qu'elle dirigeait, vous vous rendez compte? Et qui, peu à peu, a réussi à vaincre certains de ses sentiments, et faisant chaque soir sa tournée des chambres, a accepté de s'arrêter de plus en plus longtemps dans ma chambre pour tailler bavette avec moi. Et finalement, il semble qu'elle m'ait considéré comme un homme qui n'avait encore mangé personne, puisqu'elle s'est plu dans cette chambre. Nous avons eu des entretiens de plus en plus profonds, jusqu'au jour où, dans cette clinique, elle a vraiment, d'une manière toute nouvelle dans sa vie, rencontré le Christ. Et ce qui m'a bouleversé, c'était sa réflexion Je viens, comme hier soir, n'est-ce pas? Je viens de découvrir une toute nouvelle dimension de Dieu dans ma vie. Je viens de découvrir que Dieu m'aime. Parce que durant toute mon existence de sœur, j'ai eu peur de Dieu. Dieu, c'était pour moi ce Dieu qui juge, ce Dieu vis-à-vis duquel il faut avoir des relations de pratique, d'un certain nombre de lois, n'est-ce pas? C'est ainsi que Dieu m'a toujours été présenté jusqu'ici. Mais je découvre, et cela est en train de bouleverser ma vie, une toute nouvelle dimension. Et c'est vrai que nous avons vu cette sœur, cette directrice s'épanouir. Et je dirais même que jusqu'à un certain point, la vie dans cette clinique a changé. Parce que sa découverte s'est répercutée sur son entourage, sur son témoignage auprès des malades de cet établissement. Il y avait tout son passé, son catholicisme à elle, n'est-ce pas, qui l'avait amputé de toute une vision, de toute une dimension de Dieu. Elle venait de découvrir après des années. C'est pourquoi il est important que nous ajoutions à ce que nous avons dit hier soir qu'une foi authentique est fondée sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu. Nous n'avons jamais le droit de dissocier Dieu de sa parole. Si nous voulons avoir une foi équilibrée, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ ou de Dieu suivant les manuscrits, mais les deux étant aussi exacts l'un que l'autre, Dieu et Christ, n'est-ce pas? C'est le Dieu, simplement, dans ses manifestations. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La source de la foi, la nourriture de la foi, c'est la compagnie du Dieu des Écritures. Ça peut nous apparaître banal, ça ne l'est pas. Tant il est vrai que nous sommes si souvent fragiles dans notre foi, parce que nous ne sommes pas assez amoureux des Écritures. Et ce que j'aimerais tout d'abord souligner ce soir, c'est que la raison pour laquelle je mets ma confiance en Dieu est dans le Christ. C'est parce que Dieu a ceci de particulier qui le différencie de tous les êtres qui ont été créés par lui, c'est qu'il ne ment jamais. Et ça, je trouve que ce n'est pas banal. Souvenons-nous, pour nous qui sommes parents, du jour où pour la première fois nous avons découvert qu'un de nos enfants nous mentait. Vous savez qu'il arrive un moment dans la vie où on découvre qu'un enfant ment. Il nous cache qu'il a mis le doigt dans la confiture. Quand il était tout petit, il mettait le doigt dedans et venait devant nous en disant « Papa, coucou !» C'était facile. Puis il arrive un moment, il met le doigt dedans, mais il tapote sur la confiture, n'est-ce pas, après, pour qu'on ne voit pas le trou. Hein? Bref, c'est ça. Et on a beau savoir qu'un jour ça arrivera, ça fait mal quand même. Parce que malgré tous les liens paternels et maternels, ces fibres de l'âme tellement profondes qui nous lient à l'enfant, qui le lient à nous, il y a quand même quelque chose qui casse. Parce que tout mensonge, à commencer par celui qui existe au sein d'une famille, affaiblit l'unité familiale et affaiblit la dimension de foi réciproque qui soude les membres de la famille. Et c'est vrai que c'est une souffrance pour la vie de famille que toute forme de climat de mensonge. Parce que vous savez qu'à partir du moment où on commence à mentir, hein, où allons-nous nous arrêter? Quand dois-je te croire? Quand ne dois-je pas te croire? Et vous savez tout ce que représente le mensonge dans la vie des couples? Combien de couples se sont dissociés à cause du mensonge? Et c'est pour cela que il me plaît d'affirmer que nous pouvons développer précisément une relation de foi toute particulière en Dieu, alors que Dieu, lui, a beaucoup de problèmes avec nous parce que nous sommes des menteurs avec lui. Et c'est là que j'admire notre Dieu, n'est-ce pas? Qui, justement, jusqu'à un certain point, met une certaine foi en nous, puisqu'il nous confie même des tâches, il y a tout un risque d'amour et de foi, alors que nous lui jouons tout le temps de tour. Mais quelle merveille pour moi, disciple du Christ, que de savoir que Dieu ne ment pas, qu'il ne ment jamais, et qu'il n'y a même pas de mensonges légitimes, de petits mensonges, de demi-mensonges, de mensonges mignons, ou que sais-je encore, hein? Non, ça n'existe pas. Et nous pourrions prendre ce soir tant et tant de textes. Prenons-en un dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19, et c'est Balaam qui cause. Balaam, le faux prophète, c'était pas un vrai prophète, nous avons toutes les preuves dans les Écritures, souvent les croyants se sont laissés tromper, mais en réalité c'est un faux prophète. Et dans Nombre 23, verset 19, ce faux prophète est obligé par l'Éternel à souligner ceci: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et c'est un faux prophète qui parle. Et je pense à un autre passage des Écritures que je ne peux pas m'empêcher de vous lire. C'est le premier qui m'est d'ailleurs venu à l'esprit en pensant à cette étude. Dans le psaume 19, et dans les versets 8 à 10, et dans la version à la Colombe, c'est encore mieux rendu que dans nos versions classiques. Mais lisons-le. Psaume 19, verset 8 à 10. La loi de l'Éternel est parfaite. Ça, c'est l'entrée en matière. C'est le générique. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable ou véridique. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Vous remarquez ce martèlement du Saint-Esprit qui à 5 ou 6 reprises revient simplement toujours sur cette même idée: Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Voilà ce qui fait que nous pouvons avoir confiance en lui. C'est souvent d'ailleurs avec le recul que nous nous rendons compte que Dieu ne ment pas. Parfois, dans les situations difficiles, conflictuelles, que nous pouvons connaître dans notre vie, nous avons l'impression que Dieu se contredit. Nous avons l'impression que Dieu n'est pas fidèle à ses promesses. Nous nous dépatons avec toutes sortes de contradictions, l'ennemi y ajoutant ses ingrédients. Mais avec le recul, nous sommes obligés de confesser que Dieu, dans notre passé, s'est toujours avéré fidèle. Et je le confesse devant Dieu dans mon passé, en regardant maintenant, en arrière, même dans ces périodes énigmatiques, je bénis Dieu parce que Dieu a toujours été fidèle, il n'a jamais été en contradiction avec sa parole. Il y a Dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, dont nous lisions des extraits hier soir, une insistance sur l'importance des promesses associées à la foi. Hébreux 11, versets 8 à 11, c'est par la foi, Hébreux 11, 8 à 11, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, premier terme en relation avec la parole de Dieu, une terre promise, comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Deuxième mention. Si nous allons un petit peu plus loin, verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Troisième mention dans le texte. Nous allons au verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont saluées de loin. Et c'est vrai qu'il y a toute une série de promesses qui se sont d'ailleurs accomplies en Jésus-Christ. Quantité de ces hommes ont vu le Christ se profiler vaguement à l'horizon. Et ils ne comprenaient pas toute la portée de certaines paroles qui se sont accomplies d'une manière toute particulière dans la venue du Christ. Regardez verset 17. « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. » Vous remarquez cette insistance dans ce chapitre consacré à la foi. Cette insistance sur les promesses. Et c'est vrai que quand nous lisons l'histoire du père des croyants, l'histoire d'Abraham, nous nous rendons compte que les promesses de Dieu ont joué un rôle capital dans la croissance de la foi chez cet homme de Dieu. Continuellement, au fil de la croissance de sa foi, son appui, ce sont des promesses de Dieu qui petit à petit s'élargissent, deviennent de plus en plus claires, s'étoffent. Dieu se révèle de plus en plus au regard spirituel du Père des croyants. La foi d'Abraham est née et s'est développée au contact des promesses de Dieu. Et nous avons remarqué tout à l'heure dans notre lecture qu'Abraham n'a pas vu de ses yeux, mais il a cru dans son cœur. Ce qui me fait dire que la foi repose sur un fondement bien plus solide que l'évidence de nos sens. Ce fondement, c'est la parole de Dieu. Nos sens peuvent nous tromper. La parole de Dieu ne nous trompe jamais. Et je relisais hier ce texte bouleversant de Luc 5. Luc 5, versets 4 à 6, concernant une pêche miraculeuse. Luc 5, versets 4 à 6. Où il nous est dit, lorsque Jésus, le Christ, eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, et ça c'est l'évidence des saints, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et vous savez ce qui s'est passé, hein, L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alors, il est remarquable de constater là qu'il y a aussi toutes sortes de nuances dans ce texte. À savoir que Pierre dit bien sur ta parole, parce que tu as parlé, je veux faire ce que tu as dit. Et en réalité, il ne fait pas ce que Jésus a dit. Parce que Jésus, lui, avec une parole beaucoup plus précise, il leur a ordonné de jeter leur filet au pluriel. Or, Simon-Pierre a jeté le filet au singulier. Quand il dit « sur ta parole », c'est pas tout à fait ça. Il a mal écouté. Et le résultat, c'est que, en effet, le filet a été surchargé. Tout le banc de poissons s'est précipité dans la seule nappe, n'est-ce pas? Et le filet a été déchiré. Et cela me fait dire, n'est-ce pas, qu'il est important que nous soyons scrupuleux vis-à-vis des Écritures. Quand Dieu parle au pluriel, nous devons réagir au pluriel. Quand il parle au singulier, nous devons réagir au singulier. Et c'est une des raisons pour lesquelles certains me trouvent parfois très tatillon sur le terrain des Écritures. Parce qu'un pluriel et un singulier, dans la pensée de Dieu, c'est différent. Et il arrive parfois, parce que nous sommes très flous dans notre foi, et que nous ne prenons pas notre Dieu au mot, eh bien, malgré notre foi, nous avons des pépins. Parce que nous ne sommes pas allés jusqu'au bout dans la justesse de notre foi vis-à-vis des Écritures. Et je dirais assez aisément qu'il existe des églises divisées à cause de ça. Dans les Écritures, Dieu appelle un marteau, Dieu appelle un clou, un clou. Dieu aime la précision. Nous, dans notre nature, surtout dans le domaine spirituel, nous nous complaisons dans le flou. Et une foi authentique dans la parole de Dieu consiste à prendre Dieu au mot dans ce qu'il nous a écrit. Et vous voyez certainement où je veux en venir, parmi d'autres leçons, je veux en venir à l'importance d'une connaissance personnelle des Écritures. Vous avez vu la petite nuance qu'on a relevée là, qui n'existe d'ailleurs, je crois, pas tout dans tous les manuscrits, mais elle existe. Et Dieu l'a voulu ainsi, pour nous rendre sensibles à ce fait que notre connaissance des Écritures est nécessaire et pas une connaissance floue. Notre foi est floue parce que notre connaissance des Écritures est floue. Alors d'accord, pour que dans les toutes premières semaines de notre vie nouvelle, nous n'ayons pas grand-chose comme connaissance, Dieu le sait. Et il a prévu pour cette période exactement ce qui se passe dans les relations entre une maman et son tout petit bébé. Il y a des antennes toutes particulières qui existent pendant les premiers temps de la vie entre une maman et son enfant, qui s'appelle notamment l'intuition. C'est-à-dire que Dieu supplée aussi avec nous, au moment de notre nouvelle naissance, à l'atrophie, si vous voulez, au non-développement ou à l'état d'embryon de certains organes, notamment les organes de découverte des Écritures, par des dimensions toutes particulières pour un temps. Mais Dieu ne fait pas ça avec un bébé qui a 40 ans de vie spirituelle derrière lui. Comme le disait quelqu'un, un petit bébé de 6 mois, c'est beau, mais un bébé spirituel de 40 ans, c'est affreusement laid. Et ces antennes particulières au début de la vie chrétienne n'existent plus après. Parce que Dieu veut que nous travaillons, et quand on se convertit à Christ, je prends ça mon ami, hein, Daniel, il faut plonger dans les Écritures. Il faut en boire des biberons, hein, toutes les 3 heures, 4 heures, hein. Puis après, il faut passer à la viande moulue, et puis au bistec, le cheval de préférence, c'est le meilleur. Ça passe mal, le cheval. C'est pour ça que je dis, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les Écritures qui, au niveau viande, passent mal. Mais c'est très important dans nos vies de disciples. La foi vient de ce qu'on entend. Donc la foi ne vient pas de ce qu'on ressent. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi ne vient pas de ce qu'on perçoit. La foi ne vient pas de ce qu'on devine. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qui m'amène simplement à dire que nous devons faire très attention, je le dis souvent, je me répète, mais je m'appuie sur l'apôtre Paul pour me répéter, il le faisait souvent. attention au monde des sentiments. La foi ne vient pas de ce qu'on ressent. Je peux vous dire que si je devais m'appuyer sur ce que je ressens pour prêcher l'Évangile, bien souvent je ne le prêcherai pas. Je suis heureux une fois que je suis dedans. Mais vous savez, l'ennemi vous bombarde quand vous partez à l'attaque. Là, on entre dans le combat contre la puissance des ténèbres, hein, avec des chrétiens, des non-croyants, c'est comme ça. Et par exemple, un des apprentissages du prédicateur, de l'enseignant, de l'évangéliste, c'est de faire fi de ses sentiments. Et de dire, Seigneur, même si c'est dans un mètre de vase, il faut foncer. Importe ce que je ressens, je me tiens sur le terrain de ta parole. Et ce qui est valable pour le prédicateur, pour l'enseignant, pour l'évangéliste, c'est valable pour tout disciple de Christ. Et encore tout récemment, un serviteur de Dieu est venu me rencontrer pour un entretien personnel. Et dans le cours de cet entretien, me posant un certain nombre de questions, il a finalement donné la réponse lui-même. Au moment où j'allais lui dire, mais tu sais, je pense que c'est là qu'est le problème, il m'a dit, oui, mon problème, c'est que je me base trop sur mes sentiments. Et c'est un problème fréquent dans nos vies. Et souvent, nos sentiments nous empêchent de grandir dans la foi. Parce que c'est le monde de ce qu'on voit. Alors certes, dans l'approche de l'Évangile, avant notre conversion, notre foi va se développer sur la base de tout ce que Dieu va nous montrer. Ça, c'est la foi d'avant la conversion. Vous comprenez la différence? Quand Jésus disait à Thomas, « Tu as cru parce que tu as vu », j'ai dit, « Bon, ça passe. » Ça, c'est bon pour avant la rencontre à la croix, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où la croix, la résurrection, l'ascension, la glorification a eu lieu dans notre vie, c'est-à-dire qu'on a accepté ce message dans notre cœur, ensuite, dans notre croissance spirituelle, nous ne pouvons plus vivre de cette manière. Dieu nous tend quantité de perches avant. Il se prouve à nous, il nous manifeste sa foi, n'est-ce pas? Nous l'avons vu hier. Mais une fois qu'on est converti à Christ, Dieu nous demande de vivre autrement. Même s'il se plaît, ensuite, tout au long de notre croissance, nous encourager de se manifester parce qu'il est notre papa, parce qu'il pourvoit à nos besoins. Ce qu'il ne veut pas, c'est que nous nous appuyions sur ses actes de fidélité, sur nos expériences, sur nos rencontres avec lui, sur les sentiments que nous avons reçus à un moment donné dans sa présence, et que nous en fassions nos points d'appui pour continuer à grandir. Et c'est là notre problème. Combien de fois, en tant que disciple du Christ, on peut vivre pendant des années et des années sur l'expérience de notre conversion? Daniel, ne t'arrête jamais à ta conversion. N'est-ce pas? C'est très important ce que nous voyons là. Et il faut que de semaine en semaine, nous ayons un témoignage frais. C'est merveilleux ce que tu nous as dit ce soir. Mais c'est une expérience centrale dans la vie. Mais il faut qu'aujourd'hui, nous puissions témoigner aussi de ce qu'est la parole de Dieu pour nous en ce moment. Trop de disciples du Christ ne font que s'appuyer sur leurs expériences, sur ce qu'ils ont vu à un moment donné, sur leur mont Tabor ou leur Hermon, leur transfiguration, ce contact tout à fait particulier qu'ils ont eu à un moment donné de leur existence avec le Seigneur, cette expérience fantastique qui les a bouleversés, et ils veulent tout appuyer là-dessus. Là où l'apôtre Paul disait « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Et il me souvient de ces moments où j'ai dit à Dieu, « Mais Seigneur, s'il te plaît, redonne-moi le sentiment de ta présence. » Et où dans les jours qui suivent, pratiquement systématiquement, chaque jour, Dieu me redonnait ce texte de 2 Corinthiens 4 et 5, n'est-ce pas? « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Et j'ai remarqué ceci, pour ma propre vie, et on le voit autour de nous, c'est que Dieu se plaît à permettre des rencontres entre nous et lui particulièrement sensibles qui nous font vibrer à des moments où nous ne nous y attendons pas du tout. Je dirais qu'il nous prend presque par surprise à contre-pied. Pour toutes sortes de raisons liées à notre esprit de fétichisme et d'orgueil naturel, il surprend. Et alors que quelques semaines auparavant, nous lui avions demandé quelque chose sur ce point, il ne l'a pas fait. Il nous le donne gratuitement, à l'heure de son choix, de manière à ce que nous n'ayons pas tendance à nous appuyer précisément sur ses sentiments, sur ses expériences, que nous érigeons parfois si facilement aussi en doctrine, mais que nous continuions à nous appuyer sur lui. Certains savent, je le disais hier, ayant eu une enfance et une adolescence qui a beaucoup marqué ma vie, il m'est arrivé de dire à certaines personnes qu'il m'a fallu pratiquement une trentaine d'années pour faire le point dans certains domaines de ma vie liés à mon enfance et à mon adolescence. Parce que Dieu travaille avec le temps et nous devons nous en souvenir. Eh bien, à cause de cela, quand je suis passé de l'adolescence à l'âge adulte, il y avait dans ma foi de jeune disciple de Christ tout un déséquilibre. J'étais fortement porté sur les sentiments. J'avais été très tôt sevré de l'amour d'une mère qui est partie très tôt auprès du Seigneur, puis il y a eu toutes sortes de drames ensuite. Et j'attachais beaucoup d'importance à ressentir la présence de Dieu. Et puis il est arrivé un moment où Dieu a estimé, dans sa souveraineté, me connaissant, que c'était l'heure de me former sur le terrain de la foi. J'avais l'habitude, depuis déjà pas mal d'années, de lire ma Bible tous les matins, de rencontrer le Seigneur dans les Écritures tous les matins. Et je me souviendrai toujours de ce moment où j'ai découvert, d'une manière plus particulière, je n'avais jamais fait cette expérience avant, un matin, ce sentiment du vide, de l'absence de Dieu dans ma méditation. Cette impression, mais comme jamais auparavant, que Dieu était complètement absent de ma méditation. J'avais l'impression de prier, que tout s'arrêtait au plafond, c'était creux, caverneux. Et moi qui avais tellement soif de sentiments d'affection, de tendresse, de toucher la tendresse en quelque sorte, j'ai été très très troublé. Et j'ai commencé à crier à Dieu dans mon cœur, et j'avais une vocation déjà à cette époque. Et j'ai commencé à crier à Dieu dans mon cœur en lui disant, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment de vide, de vacuité, de vide intérieur? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui te déplaît? Et je suis entré dans un mécanisme qui est tellement facile et fréquent dans nos vies quand nous ne sommes pas avertis. J'ai commencé à faire une sordide introspection, c'est-à-dire à creuser, vous savez, au fond de moi-même, pour essayer de voir sous toutes les coutures tout ce qui pouvait bien me séparer de Dieu. Alors, il est sain de sonder son propre cœur au moyen de la parole de Dieu, à l'écoute de ce que le Saint-Esprit pourrait nous dire. Mais croyez-moi, quand on demande à Dieu de nous révéler nos fautes et qu'on est droit de cœur, c'est pas du tout énigmatique pour lui. S'il est une prière que Dieu se plaît à exaucer, c'est bien celle-là. Parce que Dieu, c'est une prière qui est dans sa volonté, n'est-ce pas? Et quand vous commencez à devoir creuser, creuser encore, et que vous commencez à vous décourager, à entrer dans cette fausse culpabilité, dites-vous bien qu'il y a l'ennemi qui presse derrière. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à m'inventer toutes sortes de choses qui n'existaient pas, mais qui étaient tout le travail de mon imagination avec l'aide de la puissance des ténèbres. Et savez-vous combien de temps a duré cette épreuve? Entre 6 et 7 mois. Pendant 6 à 7 mois, je continué ma méditation, j'ai arrêté un certain temps, j'y suis revenu, et j'étais complètement désemparé parce que Dieu se taisait. Et puis au bout de ce temps, un matin, dans la méditation personnelle, j'ai été à nouveau envahi du sentiment de la présence de Dieu. Ça a été un moment délicieux, je ne l'avais plus connu depuis longtemps. J'avais vécu les affres d'une sorte d'agonie, de distance par rapport à ce Dieu que je cherchais. Et je le retrouvais. Ou j'avais l'impression de le retrouver. Et bien sûr, je lui ai dit, pourquoi ? Mais Seigneur, pourquoi ? Gratuitement, comme ça, j'ai rien fait. J'ai été troublé, retourné dans tous les sens pendant 6 ou 7 mois, ça n'a pas l'air d'avoir fait quoi que ce soit, puis hop, ce matin, pouf, c'est ouvert. Et pendant des semaines ensuite, par toutes sortes de moyens de son choix, Dieu a commencé à m'expliquer le pourquoi de ces 6 ou 7 mois. Et ce qui revenait comme un martèlement dans mon cœur, mais que je pouvais accepter venant de lui, c'était « Maurice, je suis en train de t'apprendre à ne plus t'appuyer sur tes sentiments. » Parce que vois-tu, tes sentiments, c'est un peu comme une harpe. Je suis capable de jouer sur cette harpe, mais toi aussi, tu peux que jouer en dehors de moi. Et puis tu sais, la puissance des ténèbres joue sur cette harpe. On peut être absolument bouleversé au point de fondre en larmes devant un tableau extraordinaire d'un coucher de soleil en montagne au bord de la mer. On peut être transporté. Et on sait aussi que dans certaines sectes, dans certains cultes qui n'ont rien à voir avec le vrai culte, il peut y avoir des abandons dans toutes sortes d'extases et des transports d'une certaine allégresse, même si après il y a d'autres choses, qui font dire à certains, mais ça ne peut être que Dieu. Alors que dans la réalité, c'est la puissance des ténèbres. Parce que Satan sait très bien jouer sur la harpe de nos sentiments. Et que quand il a envie de nous tromper, il sait jouer de très belles mélodies. Il est capable de jouer les mélodies les plus horribles, celles qui réduisent votre psychisme en bouillie, comme il est capable de vous jouer des mélodies qui ont une certaine harmonie. Parce que Satan est le prince de ce monde, et en grec, le mot monde, c'est le mot cosmos, qui veut dire ordre. Il a son ordre, il a sa gamme, il a ses soupirs et ses silences et ses pauses et tout le reste. Alors qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va me permettre de discerner si la musique qui chante en moi au niveau des sentiments est de Dieu ou ne l'est pas? Mais c'est la partition. C'est tout. Il n'y a qu'un point de repère, c'est que je connaisse la partition. Et la partition, qu'est-ce que c'est? Ce sont les Écritures. Et pourquoi est-ce que nous nous laissons tromper si facilement, nous, dans nos pays, ici? Pourquoi est-ce que parfois les chrétiens se laissent entraîner dans des sectes dont ils ne ressortent que 10, 15, 20 ans après? Parce qu'hélas, ça existe aussi. C'est à cause de la méconnaissance des Écritures. Parce que peut-être que leurs sentiments ont vibré au contact de tels démarcheurs d'une secte. Les magnétiseurs, les médiums. Mais ils ont souvent la Bible chez eux. Et ils sont capables, mais leur source est dans la puissance des ténèbres, de vous faire vibrer. Elle leur dit, mais c'est de Dieu, puisque je me sens si bien. Et c'est ainsi que pendant quelques semaines, je reviens à mon histoire. Le Seigneur m'enseignait de toutes sortes de manières. Et puis quand j'étais au bout de ce temps d'enseignement, Maurice, il faut que tu apprennes quand tu médites le matin à me rencontrer simplement sur le terrain des Écritures. Je suis aussi proche de toi quand tu te sens bien que quand tu te sens mal. Parce que ma parole te le dit et que je suis un Dieu qui ne te ment pas. Alors quand il semblait que c'était bien enregistré dans mon cœur, hop, je replongeais dans une période de sécheresse, de désert. Non pas de désert à la mode d'Israël pendant 39 ans, n'est-ce pas? Mais de désert nécessaire. Soyons prudents quand nous aidons les autres, hein. De ne pas penser chaque fois qu'ils sont à sec parce qu'ils ont péché. Essayons de leur poser un certain nombre de questions pour savoir s'ils ne sont pas à l'école de la foi, tout simplement. Parce qu'ils se sont tellement basés sur leurs sentiments que Dieu a dû les sevrer pour les rééquilibrer. Et c'est ainsi que peu à peu, et quand je vois maintenant, avec le recul, ces quelques années pendant lesquelles cela a duré, je bénis Dieu. Parce que nous avons tous aussi ces moments de déprime. Hein. Nous ne savons pas pourquoi, subitement dans la journée, hop, c'est le creux. Et ça arrive même aux plus optimistes. Il y a des moments où on ne sait pas pourquoi, la courbe est en bas. Hein. Et on risque d'avoir une vie spirituelle qui soit constamment comme ça. Il a fait beau ces jours-ci, hein? Et ça a peut-être rehaussé le climat spirituel chez certains d'entre nous. Mais imaginons que demain matin, il fasse gris, sombre, froid, humide. Croyez pas que certains d'entre nous vont se lever en ayant le sentiment que le Seigneur est loin? Il faut que nous arrivions à pouvoir nous lever dans nos journées. Bébé a eu mal aux dents, on a dû frotter les gencives pendant une partie de la nuit. On sait qu'il y a une facture terrible qui va arriver dans la journée. Il y a telle hospitalisation là qui se pointe à l'horizon. Le temps est effroyable, etc., etc. Il faut pouvoir se lever et dire, Seigneur, tu es le même. Peu importe les événements. Peu importe celui qui essaye de me tirer en bas. La foi vient de ce qu'on entend. Alors Seigneur, je m'appuie sur ta parole. Tu as dit que tu es avec moi aujourd'hui? Alors je sais que tu es avec moi. Tu n'as pas changé. Et c'est pour cela que je peux apprendre à me réjouir dans le Seigneur. C'est tout récemment que j'ai découvert que l'essentiel dans cet impératif « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » n'est ni dans « Réjouissez-vous » ni dans « Toujours » mais dans le Seigneur. Ce qui fait que se réjouir toujours nous apparaît si difficile, c'est que le diable s'est arrangé pour occulter la fin de la phrase. Et nous savons qu'il nous est impossible de nous réjouir toujours. Il y a tant de circonstances qui viennent au-devant de nous pour tout mettre en l'air, n'est-ce pas? Or, l'apôtre Paul a dit, au fond d'une prison, en présence de 4 soldats qui prenaient la relève, alors qu'il savait ce qu'il attendait dans quelques années, il disait, dans le fond, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, parce que le Seigneur, lui, ne change pas alors que tout le reste change. Le matin, même si tout va mal, même si la nuit a été mauvaise, même si j'ai une grosse migraine comme ça, même si la journée s'annonce difficile, je peux dire, Seigneur, je me réjouis en toi, parce que toi, tu ne changes pas. Et vous savez, c'est tout un apprentissage dans notre vie. Et je ne dirai pas le nombre d'entretiens, parce que c'est peut-être par centaines maintenant, depuis quelques années, après des messages comme celui-ci. D'amis reconnaissant simplement que leur torture c'était la fluctuation de leur vie spirituelle au gré de leurs sentiments. Alors souvenons-nous fortement de 2 Corinthiens 4, 18 et 5, verset 7. Nous vivons par la foi et non par la vue. J'aimerais ici faire d'ailleurs un pas de plus. Nous avons évoqué les sentiments et il me semble qu'il était bon que nous en parlions beaucoup. Et il valait la peine de le souligner d'autant plus dans notre monde très déséquilibré au niveau sentimental. Toute une génération se lève en ce moment qui a beaucoup de problèmes au niveau des sentiments. Donc il y a besoin d'une manière toute particulière d'être prévenu pour éviter de se fourvoyer dans des voies que le diable aime. Alors ceci dit, n'ayez pas peur de vos sentiments. Seigneur, sois béni pour les sentiments, pour toute cette affectivité, tout ce domaine émotionnel qui est dans ma vie. Ça, je crois que nous devons le dire. Seigneur, merci. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des ordinateurs. Il y a des dimensions qui vibrent, qui sont extraordinaires en nous. Nous t'en bénissons. Quand tu me donnes de sentir quelque chose de ta présence, et il y a ces moments dans nos vies qui sont délicieux, qui doivent être d'ailleurs gardés entre nous et Dieu, n'en parlons pas autour de nous. L'apôtre Paul était si sobre, hein? Je connais un homme en Christ. Mais il y a ces moments-là. Alors louons le Seigneur, bénissons-le. Il arrive, n'est-ce pas, que parfois nous ayons peur de cette dimension, à cause d'excès contraires. Non, louons le Seigneur. Mais ne nous appuyons pas. Quand il n'y a pas de sentiment, eh bien nous pouvons louer le Seigneur quand même, parce qu'il n'a pas changé, n'est-ce pas? Il est le même. Sa parole est la même. Et peut-être n'est-il jamais aussi près de nous que lorsque précisément nous ne ressentons pas sa présence. C'est tout un apprentissage dans notre vie. Une remarque encore, je la tirerai de Romains 4, versets 18 à 22. Romains, chapitre 4, versets 18 à 22. Romains 4, 18 à 22. Il s'agit de notre ami Abraham. Il est dit d'ailleurs au verset 17, quelque chose que nous avons souligné tout à l'heure. C'est Dieu qui lui parle et qui lui dit au verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » On les voit point encore, n'est-ce pas? Mais Dieu dépasse le temps, pour lui, elles sont déjà. Et que nous est-il dit ensuite d'Abraham? Espérant contre toute espérance. Il crut, et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est pour cela, c'est pourquoi cela fut mis sur son compte à justice. Si certains d'entre vous ont la Bible à la colombe, la seconde révisée, elle indique une toute petite impression, une précision très importante, à savoir que, à la lumière de découverte plus récente de manuscrits, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre manière de traduire de ce texte. Les deux manières sont valables. Aucune ne pose un problème concernant la véracité des Écritures. On a vécu jusqu'ici comme ça, ça allait très bien. Mais il est bon de savoir qu'on peut traduire le verset 19 différemment. C'est-à-dire qu'on peut le traduire dans le sens positif. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Il considéra. Et que ce soit dans un sens ou dans l'autre, qu'est-ce que Dieu a voulu nous faire retenir? Il a voulu nous faire retenir cet exemple, c'est que Abraham et Sarah, vieillards, se sont peut-être de temps en temps regardés l'un l'autre et Abraham, regardant sa femme, a dit à vue humaine, tu sais chérie, c'est foutu. Quand même, de plus en plus, hein, l'immeuble est en pleine décrépitude, à vue humaine, il n'est pas question d'avoir des enfants. Il a littéralement considéré, vous voyez, l'importance du sens des mots. Qu'est-ce que c'est que ce terme considéré? Il n'est pas dit qu'il l'a regardé. Il n'est pas dit qu'il a jeté un petit coup d'œil. Vous avez dans le Nouveau Testament toutes sortes de termes concernant le regard. Et il est question de termes concernant un regard très rapide, furtif. Il est question de termes concernant un regard un petit peu plus profond. Tout Jean chapitre 20, c'est-à-dire le récit de la résurrection de Jésus, est un jeu avec différents verbes qui vont tous dans la direction du regard. Vous avez quatre verbes différents dans Jean 20 au sujet de tout ce qui s'est passé dans le tombeau et autour du tombeau. Des regards différents. En relation avec la foi, nous sommes toujours dans d'autres thèmes. Et ici, vous avez le petit mot « considérer ». Et « considérer », c'est un mot qui était utilisé dans le monde de cette époque chez les astronomes. Quand ils s'efforçaient, pas les astrologues, hein, mais les astronomes, il fut un temps où astronomie et astrologie se recoupaient, n'est-ce pas? Mais je veux parler là de la science, n'est-ce pas? Ces hommes qui s'efforçaient de percer le secret, non pas pour deviner, mais le secret de ce monde de là-haut, n'est-ce pas? Qui essayaient de comprendre tout ce monde des astres. Eh bien, ces hommes considérés. Aujourd'hui, nous dirions ceux qui utilisent toutes sortes de télescopes et tout ce que vous voulez, et qui sait s'il y a des instruments fantastiques maintenant, et qui passent des heures et des heures, des centaines et des milliers d'heures à observer. Et ce qui est intéressant, c'est que le terme, en plus, a une petite préposition, il y a deux parties, et la petite préposition souligne « regarder du haut en bas ». C'est-à-dire exactement le regard de quelqu'un qui considère quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, et qui, j'allais presque dire, le déshabille. Vous voyez ce que je veux dire? On peut regarder quelqu'un de haut en bas, vraiment le considérer, vouloir le connaître, le scruter. C'est un regard scrutateur. Donc si je comprends bien ce texte, Abraham n'a pas jeté un petit regard furtif sur sa femme en disant ouh, affreux, non pas du tout. Il a regardé du haut en bas. J'allais dire, il a compté ses rides. Et une fois qu'il l'avait bien regardé, il a dit, eh bien tu sais chérie, je vais t'annoncer une nouvelle. Quoi mon amour? Ça ne me trouble pas. Je crois que les promesses de Dieu doivent prévaloir dans notre situation. La transcription d'Alfred Kuhn dit qu'il se cramponna avec foi aux promesses. Hein? dans ce moment où il aurait pu chanceler au regard scrutateur, en constatant la décrépitude, il s'est cramponné avec foi aux promesses en disant « Seigneur, c'est tes promesses qui prévalent dans cette situation. » Vous vous dites « Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire avec cela ?» Ce que j'aimerais dire simplement, c'est que la foi n'est jamais une fuite devant les réalités tangibles, visibles, touchables, mesurables de l'existence. Nous avons parfois tendance à penser que la foi, c'est ça. Vous savez, on parle de la foi du charbonnier. Et pour ceux qui se sont convertis et qui sont issus, par exemple, d'un catholicisme dans lequel ils ont pratiqué, surtout dans le passé, il leur est arrivé de poser certaines questions aux prêtres. Et il fut un temps où le prêtre répondait « Il faut que tu crois. Ça, c'est la foi. Pose pas de questions, il faut que tu crois. » Alors, eux avaient une curiosité tout à fait normale, nécessaire, saine. Mais on leur faisait passer une idée fausse en ce qui concerne la foi. La foi, c'est croire, c'est tout avaler. La foi du charbonnier. Et alors, ils se convertissent à Christ et ils transposent la foi qu'ils avaient auparavant dans la vie chrétienne. Et ça, c'est très, très dangereux. Vous savez sur quoi ça débouche? Ça débouche sur des crises de foi. Ça veut dire qu'ensuite, après leur conversion à Christ, ils vont connaître toutes les tempêtes du doute. Parce qu'il arrivera un moment où la Bible va les gêner aux entournures. Ils ne pourront pas, s'ils veulent grandir et devenir des adultes mûrs, stables, ils ne pourront pas passer outre continuellement certaines réflexions. Il nous faut être simples, mais pas simplistes. Hein? Je crois que c'est très très important ce que nous voyons en ce moment. La foi n'est pas la crédulité. C'est-à-dire une confiance dépourvue de discernement, de réflexion, de sens critique. Notre foi fait appel à toutes nos facultés. Et parfois, nous devons constater dans nos vies que nous avons une foi absurde. Nous avons une foi suicidaire. Nous devons avoir une foi, j'allais dire raisonnée, pas rationaliste, qui idolâtre la raison. Dans les Écritures, la foi ne s'oppose jamais à la raison. La foi s'oppose à la vue. Mais pas à la raison. On commence à utiliser, par utiliser son intelligence, sa réflexion, sa matière grise. On réfléchit bien, sérieusement, on examine les choses. Et puis, à partir de là, on dit, bon, maintenant, Seigneur, même si tu me demandes de faire un saut au-delà, j'ai réfléchi, j'ai bien cerné toute la question, j'ai bien observé le problème, eh bien, je te fais confiance. Mais j'ai bien examiné le problème sous toutes ses coutures. Nous y reviendrons d'ailleurs. La foi n'est pas simplement de l'optimisme. On pense parfois que les membres d'une église qui ont un tempérament optimiste, qui correspond d'ailleurs à un certain profil, oui, il y a des chrétiens très optimistes, tout simplement parce qu'ils ont une personnalité, n'est-ce pas, qui est toute ronde. En général, ils vivent apparemment une certaine quiétude. Ce sont des gens qui savent toujours voir le bon côté des choses. Au contraire de ceux qui sont souvent des nerveux rentrés. Vous savez, il y a toute l'histoire des profils. Je ne vais pas entrer dans les détails. Les profils psychologiques, on les retrouve dans les Écritures. Pas forcément dans les classements des différentes écoles. Enfin, on les retrouve dans les Écritures. Mais la foi, ce n'est pas l'optimisme de certains types de tempéraments. La foi, ce n'est pas l'idéalisme qui pense que tout va finalement s'arranger. Ça s'arrangera. On ne réfléchit pas pour autant. Ça finira bien par s'arranger. On ne sait pas très bien comment, mais ça s'arrangera. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est une prise de position consciente du côté de Dieu. C'est une confiance réfléchie dans la fidélité de Dieu à ses promesses. Malgré toutes les évidences contraires, la foi croit Dieu parfaitement fiable et elle cherche la solution en lui. Mais parce qu'elle se sert de sa réflexion et de son intelligence, elle pense que Dieu a parfois et souvent des solutions tout à fait ordinaires à des problèmes extraordinaires. Et cela, nous le redirons demain. Parce que quand on réfléchit dans l'histoire du chapitre 17 de 1 Samuel, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire que le geste de David ? Dites-moi un peu. Vous trouvez que c'est extraordinaire, 1 Samuel 17 ? Moi, pas. J'ai cru pendant longtemps que c'était extraordinaire, mais je ne le crois plus depuis un certain temps. Pour un berger, qu'est-ce que c'était de savoir utiliser la fronde ? C'était banal. C'était banal. Et en effet, il avait toutes les chances de gagner le miracle. On leur dira demain. C'est que Dieu lui a donné la bonne pensée au bon moment, parce que sa foi lui donnait un esprit lucide. L'incrédulité, elle nous paralyse les ménages. Mais une foi dans une juste vision de Dieu, elle fait fonctionner nos ménages. Et elle nous permet donc de réfléchir pour voir, à l'aide de toutes nos facultés, comment nous en sortir. Moi, je pense qu'il y avait peut-être au sein du peuple d'Israël des gens qui faisaient des réunions de prière. Oh Dieu, s'il te plaît, dans le passé, tu es intervenu à la mer Rouge, fais un miracle comme Dieu n'a pas fait. Nous croyons en toi. Des générations passées nous ont prouvé que tu étais capable de faire des choses extraordinaires. Pendant ce temps, Dieu a essayé de souffler au cœur des soldats. Il dit, tu sais, toi, tu fais du 100 sur 100 quand tu vises habituellement. Qu'est-ce que tu attends ? Mais David, qui avait une saine vision de Dieu, a utilisé toutes ses facultés pour réfléchir et Dieu a pu souffler à son cœur. Tu vois, David, tu sais bien viser, hein, tes bergers. Vas-y. Alors, il a pris d'autres précautions en utilisant son intelligence, sa réflexion, mais son geste était parfaitement ordinaire. Et s'il n'avait pas réussi avec le premier caillou, il en avait encore quatre. Surtout quand on voit à l'allure à laquelle l'autre mastodonte s'approchait de lui. N'est-ce pas ? Dégageons-nous de cette espèce d'auréole très peu catholique que nous avons mis sur 1 Samuel 17. C'est le chapitre de l'ordinaire de la foi. Il y a dans les Écritures des chapitres bien plus extraordinaires. Le chapitre de la traversée de la mer Rouge est beaucoup plus extraordinaire que l'histoire de David et de Goliath. Et ce qui est au cœur d'un Samuel 17, c'est le raisonnable de la foi. Le fait que Dieu a trouvé un homme qui avait suffisamment de vraie foi en lui pour utiliser toutes ses facultés pour réfléchir comment il pouvait s'en sortir au mieux, sans faire appel au miraculeux, extraordinaire, sensationnel, n'est-ce pas, désincarné de là-haut. Tant il est vrai, je ne sais pas si on pourra le dire demain, parce qu'on n'avance pas assez vite, que Dieu ne fait jamais de miracles inutiles. Dieu ne fait jamais de miracles inutiles. Et le miracle est souvent dans le fait qu'il nous donne la bonne idée au bon moment. Nous allons nous arrêter là. J'aimerais simplement, en terminant, vous donner deux ou trois définitions de la foi. Faculté de voir l'invisible. Vous connaissez ce texte où Élisée voit son serviteur paniqué alors qu'ils sont dans la ville de Dothan, je crois, et qu'ils sont encerclés par l'ennemi. Et Élisée, lui, dans sa maturité, voit. Ne fût-ce qu'avec le regard de la foi, il n'est pas du tout certain qu'Élisée ait vu d'abord avec ses yeux de chair les anges qui les entouraient tous les deux. Il croyait, parce qu'il connaissait le Dieu des Écritures, que ce Dieu était en train de les protéger. Et il avait sans doute, de par sa relation avec Dieu, reçu une révélation intérieure de ce soutien. Peut-être avait-il vu de ses yeux. La Bible ne le précise pas. Toujours est-il que devant le tremblement, l'angoisse, la peur de son serviteur, il prie Dieu en disant « Ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Et quand le miracle s'est produit, le serviteur a vu ce grand camp qui était de leur côté beaucoup plus nombreux que ceux qui étaient dans le camp ennemi. C'était le regard de la foi. Le regard qui allait dans l'invisible de Dieu. Quelqu'un dit « La foi est comme un radar ». Ce texte auquel je fais allusion se trouve dans 2 Rois 6, versets 8 à 17. Vous pourrez le lire. « La foi est comme un radar dans le brouillard. Elle sait discerner de loin la réalité des choses, là où normalement l'œil humain n'y voit rien. » La foi, c'est une entière confiance en Dieu, une totale dépendance de lui, une parfaite sécurité. Elle est le sixième sens qui nous rend capables de saisir ce qui est invisible mais réel et de pénétrer dans le domaine spirituel où l'on traite directement avec Dieu. Et Spurgeon a dit ceci, ce prince des prédicateurs, « Une grande foi est capable de voir le soleil à minuit, de moissonner en plein hiver, et de découvrir des rivières sur les sommets. » Et c'est cette foi-là qui a permis à un homme comme Noé, averti des choses qu'on ne voyait pas encore, disent les Écritures dans Hébreux 11, d'aller fabriquer un paquebot, je dirais dans la vallée de Chamonix. Eh oui, parce que c'était ça. À des kilomètres et des kilomètres et des centaines de kilomètres de la mer, dans un pays où la pluie, hein, on n'en voit pas venir beaucoup. On ne sait pas du tout à quelle altitude se situait le lieu où était Noé. Mais imaginez que des croyants d'une église évangélique de Chamonix montent en plus un peu sur les hauteurs et se mettent à construire un bateau. Hein. Qu'est-ce qu'on penserait d'eux? Mais Dieu lui avait parlé et Noé a manifesté sa foi en ce qu'il a cru que Dieu est un Dieu qui ne ment pas, qui ne trompe pas. Et j'aime en terminant simplement dire ceci, c'est Hébreux 11, 7 qui vous précise cela. C'est que vous comprenez ce soir pourquoi, et c'est là que je voulais en venir dans ma conclusion, pourquoi la connaissance de Dieu, la connaissance de son caractère, la connaissance de ses promesses, une imprégnation profonde de la parole de Dieu est nécessaire dans nos vies. Si nous voulons développer des certitudes dans nos vies, si nous voulons avoir une foi qui s'approfondisse, il importe que notre fondement soit solide et que nous soyons au clair quant à notre fondement. C'est-à-dire que nous passions du temps à découvrir, à lire, à nous imprégner des Écritures. Parce que les Écritures vont être le levier de notre foi. Et que nous vivions bien sûr dans l'intimité de ce Dieu. Tant il est vrai qu'on peut avoir une connaissance terriblement intellectuelle des Écritures, qui ne nous servira qu'à avoir des attitudes absurdes. On est parfois hyper intellectuel devant les Écritures et bête dans les réalités de la vie quotidienne. Parce que ce n'est pas l'emmagasinement là-haut qui compte, n'est-ce pas? mais il faut que ça descende au niveau de la vie. Et dans les Écritures, les hommes de foi ont été des hommes qui étaient imprégnés des Écritures, mais qui marchaient avec un cœur entièrement livré à l'Éternel. Caleb, compagnon de Josué. 6 fois, il nous est dit que il marchait en étant tout entier pour l'Éternel, son Dieu. 6 fois dans les Écritures. Lisez ce qui est dit de lui dans Nombre 14. 6 fois. Avoir mis sa vie sur l'autel. Vraiment, avoir déposé son être tout entier, toutes nos facultés sur l'autel. Non pas pour nous abandonner à la passivité, mais pour les utiliser toutes en sacrifice actif. Parce que nous parlerons demain matin de l'action de la foi au service de Dieu. Mais dans cette imprégnation, en baignant, oui, en nous régalant, hein, des Écritures. C'est là la base et la nourriture de notre foi. Même face aux évidences contraires, Dieu nous appelle alors à proclamer avec foi sa victoire, à le remercier par avance pour son exaucement. La foi est une conviction qui s'installe dans notre vie, qui est fondée sur notre relation avec le Seigneur et avec sa parole. Que Dieu nous aide à reconsidérer notre vie et ses fondements sur lesquels s'appuie notre foi.